Question. Alors voilà comment la Gemara l'a posée. Pourquoi le mot de Reitzer pour dire la formation de l'homme est avec deux yeux? Ça indique quoi? La réponse est très simple, formellement, c'est individualité. Laquelle? Je vous lis le texte dans la Gemara. Darash Rav Nachman bar Rav Hazza. Mai dirti Reitzer Hashem Elokim et Adam Mishne Yudim. L'enseignement de Rav Nachman, fils de Rav Hazza. Que signifie le fait qu'il soit écrit? Et Dieu forma, essayez d'entendre forma avec deux F, forma, vaïté avec deux U, l'homme avec deux U. Première réponse, bara akados baruchu. Ah, shne yitzari bara akados baruchu, c'est deux penchants, instincts, tendances que Dieu a créés en l'homme. L'un, c'est Yetzerato, le penchant du bien, et l'autre, Yetzerara, le penchant du mal. C'est-à-dire, d'après ce vous avez déjà étudié ce texte? Non. D'après ce premier enseignement, cette dualité, c'est la dualité bien et mal. Alors réfléchissons. Impossible de réduire le bien au mal, impossible de réduire le mal au bien. Et c'est pourquoi vous aurez tout de suite cette tendance de la pensée naturelle de dire l'homme a été créé simultanément par un dieu du bien et un dieu du mal. Comment le dieu du bien a-t-il créé le mal? Comment le dieu du mal aurait créé le bien? Donc il y en a deux. Vous voyez tout de suite, cette tentation du polythéisme ramenée en fin de compte au dualisme radical qu'on peut plus réduire à l'unité. N'importe quoi dans le monde peut être réduit à un principe unique. L'arbre, le principe arbre. Là, quoi, le rocher, le principe rocher. La terre, l'élément en terre. Je n'ai pas fait exprès. Mais l'homme, ça se réduit à une dualité. Est-ce que c'est clair? Et ça pose la question, on met de Dieu si c'est en lui. Vous voyez, par exemple, une religion comme le mazdéisme, la religion de Zoroastre, qui a été une religion très forte dans l'antiquité païenne, qui est la religion du dualisme, qui a deux dieux, un dieu du bien, un dieu du mal. Et ce dualisme va influer sur beaucoup de religions monothéistes qui se réclament de la Bible. Ce dualisme, on le retrouve avec un conflit très, très grave, et qui au fond n'est peut-être pas fini. La guerre entre l'Iran et l'Irak, un pays persan, un pays arabe, peut-être que c'est la suite de ces conflits entre le monothéisme arabe et le dualisme persan. Peut-être, une hypothèse, hein? C'est peut-être plus important que ça, mais il y a une mentalité différente. Et même dans l'islam, on trouvera, bien que l'islam ait lutté contre ce dualisme, on trouvera une influence de ce dualisme. La place que le shaitan tient dans l'islam. Le Satan arabe s'appelle Shitan en arabe. Okay? Et puis c'est évident pour le christianisme. Le christianisme a lutté contre la gnose dualiste, des luttes terribles. Et pourtant, le christianisme est imprégné de dualisme. Et pourtant, c'est une religion qui se présente comme monothéiste. Ça veut dire la pensée naturelle est arrivée en fin de compte au dualisme et n'a pas pu le dépasser. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des mystiques zoroastriens qui ont eu l'hypothèse, l'intuition de l'unité au-delà du bien et du mal. Une sorte de Nietzsche avant la lettre, si vous voulez. Mais ça reste des intuitions vagues, une mystique qui n'a pas pris corps dans l'histoire. La religion de l'Antiquité est ou polythéiste, et dans le meilleur des cas, dualiste. En particulier, je crois que l'exemple de ce dualisme, c'est le zoroastrisme. Si vous étudiez les brachot concernant le Kriyat Shema, qui est l'affirmation de l'unité, vous verrez, vous saurez qu'elles ont été formulées contre le dualisme zoroastrien. C'est celui qui a créé la lumière qui a créé l'obscurité. Alors que pour les dualistes, il y a le dieu de la lumière et le dieu de l'obscurité. Vous voyez à quoi je fais allusion, okay? On ne peut pas ne pas être frappé par la manière dont le brachot du Kriyat Shema qui est formulé, tant le matin que le soir. C'est celui qui crée la lumière qui crée l'obscurité. Ça dépasse l'entendement humain. Bon, alors je reviens. Première dualité, la dualité d'homme moral, les deux Yetzarim, Yetzer Tov, Yetzer Ra. Indication d'envoi Yitzer avec deux Yud. Comme s'il y avait un Yud pour le Yetzer Tov, un Yud pour le Yetzer Ra. Alors que chez l'animal, il n'y a pas cette dualité. Nous l'appelle Rashi d'ailleurs. Objection de Rav Nachman. Vous avez suivi la première thèse, c'est clair? Objection de Rav Nachman Bar Yitzchak, si je me souviens bien. Oui. Objection de Rav Nachman bar Yitzchak. Ela me'ata, behema de l'actif de Vaitzer, l'ekla Yitzchak, La bête pour laquelle il n'est pas écrit Vaïtzer et Goïmi n'aurait pas de Yetzerara, Yitzra ici c'est le Yetzerara, ça veut dire, si je suis ton raisonnement, que la Torah voulait indiquer la dualité Yetzerara dans le Vaïtzer du verset 7 du chapitre 2 pour l'homme, alors ça voudrait dire que pour l'animal, verset 17 du même chapitre, c'est bien 17, 14, quel hein? Pas du chapitre précédent, du même chapitre, du chapitre 2. Verset 9, 19. Vous l'avez sous les yeux? Voilà, ça c'est bien. Mais il ne sait rien, c'est lui. Alors ça voudrait dire que l'animal n'a pas de l'itzerara. Vous avez compris l'objection? Bon, ici on fait un peu de Talmud, mais enfin ça fait rien, accrochez-vous. Okay? Et suite de l'objection de Rav Nachman Bar Yitzchak, Ve'ak hazinan demaska venashra ubata. Et pourtant, nous voyons bien dans l'observation qu'il lui arrive de mordre, de ruer et de donner des coups de sabot. Ça veut dire qu'on voit bien dans l'expérience de l'observation qu'elle peut être mue par la volonté de faire le mal, de donner du mal. Donc il y aurait un etzalara aussi chez l'animal. Donc ta première explication ne suffit pas, parce que si tu cherches la différence entre l'homme et la bête, en me disant que la différence c'est que chez l'homme il y a l'instinct du bien, l'instinct du mal, que chez l'animal il est indifférencié, c'est l'instinct de lui, et il n'y a pas de dualité, voilà qu'on observe un instinct de mal chez la bête, quand, sans faire de l'anthropomorphisme, on ne sait pas ce qui se passe dans la conscience d'une bête, si même on peut dire conscience, mais dans l'observation ça ressemble tellement. On voit un animal paisible, et puis subitement, il rue, il mord, donc ça c'est l'Yetzerara. La réponse que donnera le Talmud d'autre part dans Vavakama, c'est que la bête est naturellement paisible, mais c'est au contact de l'homme qu'elle devient méchante. C'est un problème refusé. Pour la Gomara, la Behema est d'abord Tama. Tama, ça veut dire paisible. Elle est Moedet, Shor Moab, vous avez étudié ces choses-là, que si le propriétaire est et méchant, vous avez appris ça. Et vous allez me dire quoi, et un lion, un tigre, c'est pas de la méchanceté, c'est leur manière de vivre. Il n'y a pas volonté de faire le mal, c'est cruel dans notre expérience, c'est méchant, mais c'est pas mauvais. Est-ce que c'est clair? Le lion ne veut pas faire du mal à l'agneau, il veut manger. J'ai une fois un chidouche, il y a un psaume qu'on lit dans le Ritz Paradis, dans Amincha de Shabbat. Il y a un verset qui dit Akfirim Shoadim Latarev Ulbakesh Meel Ochlam. Et Kfirim, c'est les lionceaux, rugissent pour déchirer la proie, Tarev, Ulbakesh Meel Ochlam, et réclamer de Dieu leur nourriture. Ça semble contradictoire. Okay? Ils rugissent quand ils déchirent leur proie, et ils prient dans mon pain quotidien. Alors, le chidouche, je voudrais poser cette question. Pourquoi ils rugissent? Parce qu'ils sont obligés de déchirer pour manger. Ils préféraient que Dieu leur donne à manger. Vous avez entendu ce que Akhirim, Shoagim, Lataref, Ulbakesh, Melochlam, en vue que. Bon, vous avez compris l'idée, c'est clair? Bon. Alors, c'est ce que je voulais expliquer. Ça veut dire, l'animal sauvage, il n'est pas sauvage, c'est l'homme qui est sauvage. L'animal sauvage, c'est une brute de la nature. C'est pas de la méchanceté. C'est l'homme qui peut être méchant. Vous avez bien compris? Donc, oui, mais la Gemara va expliquer, c'est vrai. Il arrive qu'un animal paisible devienne enragé, mais ça, c'est les animaux domestiques. C'est les animaux au contact de l'homme, au contact de la méchanceté humaine. Si on veut savoir de quelle nature morale est un berger, il n'y a qu'à voir comment ses bêtes se conduisent. Et ça, il y a beaucoup d'implications. Okay. On dit, là, on va s'effruire, il est l'autre. Alors, donc, objection, ça veut dire quoi? C'est pas qu'on refuse la première thèse, que la dualité chez l'homme, c'est la dualité morale, elle va rester fondamentale. Mais c'est pas suffisant pour expliquer ce vaïtzer. Et encore une fois, vous apprenez ce qu'est une dracha. Ça veut dire, on ne veut pas nous dire, en vérité, pourquoi la Torah a mis deux yuds. Ça, c'est un seul. Ça fait partie de la Kabbalah. C'est Nista. La raison pour laquelle il y a deux yuds, c'est une autre explication à un tout autre niveau. Mais la dracha, c'est qu'est-ce que ça implique pour notre sujet? Qu'est-ce qu'on va apprendre de là? Maïndirti. Vous avez compris la différence? Ça vient nous confirmer quelque chose que la Torah n'a pas à dire, mais elle a confirmé. Pourquoi? Voilà, là j'ai touché un principe important. Pourquoi on a besoin que Rav Nachman Bar Chaza, Rav Nachman Bar Yitzchak viennent nous dire qu'est-ce que c'est cette doyout? Si c'était si important que ça, la Torah nous aurait dit, l'homme est créé avec un yetzer tov, yetzer rar, pourquoi avec une façon aussi elliptique? Vous avez compris? C'est que ça, c'est des évidences que la Torah n'a pas à dire. Si tu ne sais pas que tu es fait de ces deux instincts, la Torah n'a rien à te dire d'autre. La Torah va pas commencer à t'apprendre l'alphabet humain. L'alphabet humain, ça, c'est ton expérience de bonne foi. Et alors là, elle vient te dire ce qu'elle a à te dire. Vraiment, quand il y a des doutes dans des questions de ce genre, ça fait éclate tout, perplexité. Alors on trouve à s'accrocher dans des aspérités du texte pour confirmer quelque chose. Ce que les rabbins ici veulent nous dire, c'est pas que la Torah nous a dit qu'il y a deux yetzarim. Ça, si tu le sais pas, tu n'es pas un homme de la Torah. J'y reviendrai. La Torah nous confirme cela parce qu'il peut y avoir une perplexité. Je crois qu'on va passer beaucoup de temps là-dessus. Et en effet, il n'y a que quatre thèses possibles dans les doctrines concernant les instincts, bien et mal, dans l'homme. Vous avez des doctrines qui diront, à l'origine, l'homme n'est que bon. C'est d'autre part que le mal est venu. Par exemple, cette doctrine, je pense à Rousseau, mais lisez bien Rousseau dans ce texte. Il ne dit pas les choses aussi simplement que ça. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Je sais qu'on attribue cela à Rousseau, c'est pourquoi je l'ai cité, mais Rousseau n'est pas si naïf que ça. Okay? Que l'homme serait né angélique et que la société l'aurait corrompu. Et d'où la société a pris sa corruption, si ce n'est pas de l'homme. Vous voyez que ce n'est pas si simple que ça. Bon, le premier type de thèse. Vous avez une deuxième thèse pessimiste. L'homme est mauvais. Et il est créé mauvais. Et c'est de l'extérieur que la tendance vient lui vient. Ça, on trouve ça chez les gnostiques. Que le créateur, c'est un dieu mauvais qui a créé l'homme mauvais. Bon. Et troisième thèse. C'est une thèse qu'on trouve chez beaucoup de philosophes. L'homme n'est ni bon ni mauvais. C'est un être vivant à la manière de l'animal. Et c'est son éducation qui fera que il acquérera des valeurs du bien ou des contre-valeurs du mal. La Torah, elle, ne prend en compte que la quatrième thèse, c'est que l'homme honnête sait qu'il est fait de deux tendances, une au bien, une au mal, et que les deux, c'est lui. Voilà, il faut ouvrir les yeux là-dessus. Alors ça, la Torah n'a pas à nous le dire. Elle ne parle qu'à celui qui sait ça, en toute bonne foi. Seulement, étant donné que vous avez un problème, pourquoi dualité? Qu'est-ce que la dualité chez l'homme? Elle va nous confirmer. Encore une fois, d'une autre manière. Si un homme qui découvre en lui le Yetzer Tov et le Yetzer Rar se dit « Mais c'est pas possible que Dieu m'ait fait comme ça. » Or, la Torah vient nous confirmer. Oui, c'est comme ça que Dieu t'a fait. Et nous devons réfléchir en vue de quoi? Mais vous voyez, quel est l'enseignement du monothéisme de la Torah? C'est le même Dieu qui nous a créé, regardez comment dire, Rav Nachman Bar Chaza. Et que ça veut dire que le Dieu unique nous a créé notre Yetzerara. Okay? Mais, encore une fois, la Torah ne l'enseigne pas directement. Parce qu'elle ne parle qu'à celui qui le sait, pour venir le confirmer. Je reprends l'analyse de ce point-là. Vous pouvez réfléchir sur ce plan des quatre attitudes que je vous ai indiquées. Et il n'y a pas de doute que refuser cette découverte, que quand je veux le bien, c'est moi qui veux. Quand je veux le mal, c'est moi qui veux, c'est ruser avec soi-même. Il faut découvrir cela en toute bonne foi. Et, par exemple, vous avez ces attitudes qui consistent à dire, je vous ai parlé une fois de l'islam, je crois que je ne sais pas si vous savez. Dans l'islam, vous avez parlé de l'islam? Non. Ici, dans l'islam, il n'y a pas de notion de responsabilité morale, à la limite. Pourquoi? Parce que l'islam ne reconnaît que la souveraineté de Dieu. Il n'y a pas de liberté, d'autonomie de l'homme. C'est schématique ce que je vous dis, mais si je vous en ai parlé, vous vous raccordez. Et alors, lorsque l'homme fait le mal, c'est pas lui qui a fait le mal. C'est un ange du mal qui lui a fait faire le mal. Lorsque l'homme fait le bien, c'est pas lui qui a fait le bien, c'est Dieu, grâce à Dieu, qui lui a fait faire le bien. Donc le problème moral est évacué au fond. Ça ne veut pas dire que le musulman sera forcément immoral. Pas du tout. Mais sa théologie est amorale, elle est au-delà de la morale. C'est une mystique. Et c'est surtout valable, surtout visible pour le christianisme. le christianisme n'enseigne pas une morale, bien qu'il y ait une morale chrétienne. Le christianisme enseigne une théologie du salut. Et ça va d'ailleurs très loin. Comment être sauvé du problème moral chez les chrétiens? Parce que le problème moral nous condamne. Et donc, il faut être sauvé du problème moral. Deux stratégies magiques, Dieu prenant sur lui les fautes de l'homme, enfin, on en a parlé la semaine dernière. Et puis, ça ne veut pas dire, encore une fois, que le chrétien est immoral. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, il est amoral. Pour lui, c'est une religion qui n'a rien à voir avec la morale. D'autre part, tout n'est pas permis, mais il y a une politesse. Mais croire que c'est par la morale que le salut s'acquiert, ça c'est judaïsé. Ça, le chrétien refuse. Et même si vous entendez un chrétien vous parler de morale, ne soyez pas dupes. C'est pas en tant que chrétien qu'il parle. C'est pas en tant que français, en tant que suisse. En fait. Je vous en ai. Il y a aujourd'hui un mouvement de réconciliation des chrétiens avec les juifs, enfin, une tendance, si vous voulez repentir, qui s'appelle en particulier l'amitié judéo-chrétienne, bon, en France, en Suisse, en Angleterre. Et alors, vous croyez vraiment que ça vient du judaïsme et du christianisme, cette rencontre? Ben, si ça vient du judaïsme et du christianisme, comment comprendre que ça a attendu 2000 ans? C'est invraisemblable. Alors, au bout de 2000 ans, les chrétiens n'étaient pas chrétiens, subitement deviennent chrétiens. Au bout de 2000 ans, les juifs n'étaient pas juifs, subitement ils deviennent juifs et ils s'aiment. C'est complètement faux. C'est un phénomène de la cité européenne, 2000 ans après, dans son histoire. Et la manière dont il y a des amitiés judéo-ukrainiennes à la française et française, à la Suisse et les Suisses, à la Britannique et les Britanniques. C'est un phénomène de la société française, pas du tout chrétienne ou juive, en tant que telle. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Même pas. Réfléchissez. Les chrétiens n'aimaient pas les juifs pendant 2000 ans. Subitement, ils les aiment en tant que chrétiens. Alors qu'est-ce qu'ils étaient en tant que chrétiens pendant 2000 ans? Les juifs n'aimaient pas les chrétiens pendant 2000 ans. Subitement, ils les aiment en tant que juifs, alors qu'ils étaient comme juifs pendant 2000 ans. Réfléchissez à ça. Hein? Oui, c'est un phénomène de leur société. C'était à mettre à l'actif de la cité française que Jules Isaac et je sais plus qui, et mon frère d'ailleurs, ont fondé l'amitié judéo-chrétienne avec je sais plus qui, peu importe. Et puis les points de Sélisberg, la révision de la catéchèse chrétienne, enfin tout ce qui s'est déclenché après la guerre, c'est un phénomène français. Ça s'est fait en Suisse, c'est un phénomène suisse. Et alors, c'est de la poudre aux yeux de croire que c'est un phénomène chrétien ou juif. Le judaïsme et le christianisme ne sont pas en question là-dedans. Ce qui est en question, c'est la civilité entre juifs et chrétiens. Et par conséquent, la notion d'amitié entre juifs et chrétiens est valable. Judéo-christianisme, c'est une contradiction dans les termes. C'est ça qu'il faut comprendre.
Est-ce que c'est clair?
Bon. Et je crois personnellement que c'est un bien pour la cité française que les juifs, tant qu'ils vivent en France, et les chrétiens qui vivent en France, soient en convivialité. C'est un bien. Mais il ne faut pas tromper les gens et de croire que judaïsme et christianisme, c'est devenu la même chose. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce que sinon, on ne comprendrait pas qu'est-ce qui leur est arrivé pendant 2000 ans. Bien. Alors, je referme la parenthèse en disant que la première dualité, la dualité d'ordre moral, reste acquise. C'est vrai que ce qui spécifie l'homme par privilège, c'est qu'il est capable d'instinct du bien et d'instinct du mal. Dans les deux cas, c'est lui-même qui investit sa volonté. Et les trois autres thèses, l'homme n'est que bon, le mal vient de l'extérieur, l'homme n'est que mauvais, le mal vient de l'extérieur, l'homme n'est ni bon ni mauvais, ça, la Torah refuse, c'est pas un homme authentique. Est-ce que c'est clair? Non. Mais, ça ne suffit pas, parce que si on cherche le caractère spécifique de l'homme, et qu'on le met dans la dualité morale, eh bien, ça ne suffit pas de distinguer de certaines conduites de l'animal. Donc, il faut ajouter une deuxième dimension. Je finis la Gemara et on y va. Et là, qu'est-ce que Rabbi Shimon ben Pazi? D'ailleurs, Rabbi Shimon ben Pazi, olim yotzri, ve olim yitzri. Donc, dit la Gemara, il faut faire appel à l'enseignement de Rabbi Shimon ben Pazi, qui a une formule que Rashi va nous traduire, mais qui est très connu dans le monde talmudique, Olimiyotri, Olimiyitri. Ça veut dire malheur à moi de la part de mon créateur, malheur à moi de la part de mon instinct. Rashi explique comme ça. Ça veut dire une situation existentielle tragique. C'est ça la dualité. La dualité entre l'idéal et la réalité. Qui dépasserait, d'après cette deuxième réponse, la dualité morale entre le bien et le mal. Ça veut dire, Le malheur me vient du côté de mon créateur si je suis mon instinct. Et le malheur me vient du côté de mon instinct si je suis mon créateur. Alors, inéchappable, c'est une situation tragique. Parce que mon instinct, c'est mon créateur qui me l'a donné. J'ai compris cela. C'est-à-dire, Rabbi Shimon ben Pazi va élever le problème à un niveau beaucoup plus grand. Avec ma dualité morale, je suis pris dans une dualité entre l'idéal et la réalité. Imaginez une voiture qui aurait deux moteurs. Un qui pousse vers l'avant et l'autre qui pousse vers l'arrière. Un c'est le yotzer et l'autre c'est le yetzer. Chaque fois que le yotzer veut quelque chose, le yetzer est contre. Chaque fois que le yetzer veut quelque chose, le yotzer est contre. J'ai compris, je traduis. Okay, je vais vous dire autrement. Chaque fois que mon corps veut quelque chose, mon âme est contre. Chaque fois que mon âme veut quelque chose, mon corps est contre. On dit voilà, c'est cette dualité-là que ne connaît pas l'autre, les autres êtres vivants. La dualité, je l'appellerai existentielle, entre l'idéal et la réalité. Et Rabbi Maran ne se satisfait pas de cela, et elle ajoute, et iname, l'enseignement de Rabbi Mia Belazar, d'où par soufim barak al-Dorotou d'Adam Arjou, que l'identité humaine est toujours en deux formes radicalement différentes. Une dualité qui, cette fois, anthropologique, qui inclut les deux premières. L'homme est homme et femme, homme ou femme, individu, société. Ça veut dire, et ce problème du drame de l'identité humaine, écartelé entre le bien et le mal, écartelé entre l'idéal et la réalité, il est encore écartelé entre les deux formes de l'identité humaine. S'il y a homme, il y a femme. S'il y a femme, il y a homme. Mais on n'est jamais que l'un ou l'autre. Je ne parle pas des cas de perversion. Et s'il y a individu, il y a société. S'il y a société, il y a individu. On n'est jamais que l'un ou l'autre. Et la tension entre ces deux visages de l'homme, l'homme et la femme, ces deux visages de l'homme, l'individu et la société, ces deux visages de l'homme, la société étrangère. C'est-à-dire, chaque fois, dès qu'il y a une présence humaine, il y a une complémentarité qui manque. Alors, c'est encore une autre dualité. Vous voyez, il y a six dimensions, si j'ose dire, d'écartèlement de l'identité humaine. Voilà, c'est ça, la carte d'identité de cette dualité, si j'ose dire. Je reviens tout de suite à ma question, et après, je vais un peu conclure sur cette page de cette souga du Talmud, parce que là il y a un point, hein, surtout d'autres choses. Et ça c'est étrange dans le Talmud, qu'on nous pose une question sans réponse, surtout c'est étrange que le Talmud nous dise l'homme est maudit. Parce que vivre ces six contradictions, c'est la malédiction. Chaque fois que mon Yetzer Tov demande quelque chose, mon Yetzer Rav demande le contraire. Chaque fois que mon Yetzer demande quelque chose, mon Yetzer demande le contraire. Chaque fois que moi, le mari, je demande quelque chose, la femme demande le contraire. Chaque fois que moi, le foyer demande quelque chose, la mairie demande le contraire. Chaque fois que mon pays demande quelque chose, le voisin demande le contraire. Vous voyez à quoi l'on est donné. Situation tragique, dualité sans issue. Cette dualité, c'est une voie sans issue, si j'ose dire. Et alors, juste après, on s'occupe de tout à fait autre chose. Du premier mariage d'Adam et de Chava. C'est la transition qui nous donne la réponse de notre premier enseignement. Ça veut dire, il y a une expérience de l'homme qui montre que la situation humaine n'est pas cette situation tragique, c'est précisément le mariage. Effectivement, bon, c'est pas le sujet du cours, si vous en parlerez un jour, c'est un sujet très vaste, mais le Midrash va nous dire que au premier mariage, Dieu lui-même était témoin du mariage. Il était celui qui a fait le mariage et témoin. Vous connaissez ce Midrash? C'est-à-dire, c'est quelque chose de très important, ce mariage. C'est Dieu lui-même qui le célèbre. Okay? Et parce que lorsqu'il y a la simcha de la choupa, dira le Midrash, la simcha de la choupa, c'est ce que demande le Yetzer Hara et ce que demande le Yetzer Tov, c'est la même chose. Tout se résume. Ce que demande le Yotzer, ce que demande le Yetzer, c'est la même chose. Tout se résume. Et puis les deux visages de l'homme s'unifient, ça se résume. Vous voyez pourquoi la simcha de la choupa, c'est le contrepoison de cette espèce de carte d'identité tragique de la dualité humaine. Le Zohar, d'ailleurs, a fait une allusion à cela, que, à propos des religions, pour qui l'homme est damné, et en général, leur prêtre ne se marie pas. Il a fait le remarqué. Et ils ne peuvent pas se faire la preuve que ce n'est pas vrai. C'est ça leur punition, dit le Zohar. C'est comme ça. Je reviens au... Et imaginez les prêtres qui se marient pas. Voilà ce qu'on dit là. Ça veut dire, si vous lisez les livres, surtout des jésuites, qui raconte les tourments des prêtres célibataires. Bien, je reviens. Alors, ils appellent ça la pureté, alors que c'est l'impureté. C'est ça, ils vont. Bien, je reviens à notre sujet. Voilà donc ce que nous avons découvert, finalement, à travers cet exemple, c'est ceci. C'est que il y avait nécessité de confirmer pour l'homme que c'est bien selon le dessein de Dieu qu'il a été créé. Et c'est ça que veut dire, ce que veut dire cette expression « à l'image de Dieu ». En hébreu, ça signifie « à l'image que Dieu s'est fait de l'homme ». Est-ce que c'est clair ou voulez que j'ajoute encore autre chose? C'est? Alors, dis-moi quelle est la difficulté.
On
ne peut
pas imaginer que Dieu crée quelque chose sans que ce soit son dessein.
Oui. Oui, mais ça, il fallait le confirmer dans le cas de l'homme. Parce que dans le cas de l'homme, c'était invraisemblable, si j'ai bien compris ta question. Alors, tu as embrayé sur le sujet. Ça veut dire, ça va de soi pour toutes les créatures. Quand la Torah nous dit que Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qu'il contient, il n'y a pas besoin d'ajouter. Mais dès qu'il s'agit de l'homme, la Torah doit confirmer, c'est bien comme Dieu a voulu le créer, qu'il l'a créé. Pourquoi ? Ben, c'est ce que je vous ai cité tout à l'heure. La contestation du polythéisme, c'est de dire on ne peut pas être monothéiste à cause de l'homme. Est-ce que c'est clair? Voilà, il y a une créature parmi les autres que ce n'est pas possible de l'expliquer par un seul Dieu. Alors, la Torah contre-attaque en disant c'est bien comme Dieu l'a voulu qu'il a créé l'homme. Ça veut dire qu'il y a une finalité du Yetzirata, comme il y a une finalité du Yetzirata. Voilà, c'est un peu schématique, mais. C'est ce que je voulais vous indiquer. Qu'est-ce qu'on va retenir d'aujourd'hui? C'est que l'identité de Chet est d'emblée une identité messianique. Alors que l'identité de Caïn, c'est une identité humaine du commencement de l'histoire. Et on raccroche. Merci. Alors, Shabbat Shalom.